Essentiel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
C'est la suite de notre édition spéciale consacrée aux réfugiés dans le monde, aux migrants. Toute la journée, vous le savez, RFI vous propose de nombreux rendez-vous, de reportages, des invités, des émissions spéciales. Nous allons vous donner la parole durant les 20 prochaines minutes sur cette question. On va lancer le débat aussi sur les politiques d'accueil qu'il faut mettre en place. On en parlait tout à l'heure avec le directeur général de France Terre d'Asile. On voit bien qu'en ce moment même, en Europe, les États membres sont divisés sur la question de la prise en charge des migrants. Comprenez-vous la réticence de certains pays? On a envie de vous entendre évidemment sur cette question cruciale. Vos témoignages, et ils sont nombreux au standard et sur la page Facebook de l'émission. D'ailleurs, vous pouvez vous-même les lire, les consulter, ces témoignages sur la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, un chiffre. Chaque jour, l'année dernière, 42 000 personnes sont devenues des réfugiés, des déplacés ou des demandeurs d'asile. Leur nombre a donc atteint le triste record de 60 millions de personnes dans le monde. 60 millions de personnes, c'est à peu près le nombre d'habitants que compte la France, c'est vous dire donc l'ampleur de ce phénomène et de ce fléau. Au standard, nous avons Mohamed qui nous appelle de la région parisienne. Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Vous êtes arrivé en France en 2000, c'est ce que vous avez dit au standard, et vous souhaitiez nous parler de votre parcours du combattant pour obtenir le statut de réfugié.
Tout à fait, oui. Je m'excuse, je suis pas Mohamed, je suis guinéen. Je suis arrivé ici le 15 septembre 2000. Malgré que je savais rien ce qui se passait en Europe, on n'expliquait rien en Guinée. Mais je suis venu ici, j'avais des balles dans mes pieds que j'ai reçues par les militaires guinéens. Mm-hmm. J'étais garde-corps d'un opposant, Bamamadou, paix à son âme. Mais demander asile politique ici, c'était vraiment quelque chose qu'on ne peut pas attendre, on ne peut pas savoir au pays. Même si on t'explique ce qui se passe au pays, tu vas dire que oui, je sais que c'est dur, mais j'ai envie d'aller parce que moi, je vis un enfer ici. Mais l'enfer que les gens vivent, c'est nous, c'est mille fois mieux que ce qu'on vit ici si tu arrives à un demandeur d'asile que tu connais rien du tout.
Ouais. C'est-à-dire que quand vous êtes arrivé, vous étiez livré à vous-même, vous n'aviez personne pour vous aider, pour vous conseiller dans les démarches administratives. Comment ça s'est passé pour vous? Vous avez dit au standard que on vous a rejeté plus de 10 fois votre demande de réfugié.
Tout à fait, on m'a rejeté plus de 9 fois demande d'asile politique ici, que ce soit commission d'OFA, commission de recours et conseil d'État, tout, en même temps. Faisais tout pour avoir mes papiers, pour ne pas rester ici sans papier. Mais comme je voyais que je ne peux pas avancer au niveau de ça, chaque fois on me rejette, on me dit ça manque ça et ça, et pourtant tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas demander au pays papier que toi-même tu es un demandeur d'asile, tu ne peux pas avoir quelqu'un là-bas à qui demander aide-moi ça.
Oui. Mmh.
Alors, j'ai essayé de passer mon permis ici, permis de conduire. C'est à travers de ça que j'ai passé mon permis. Je n'avais pas de papier, mais j'ai réussi d'avoir mon permis français.
D'accord.
Malgré ça, j'ai travaillé gauche à droite pour payer mes loyers, mais j'avais peur. Parce que chaque fois, j'avais une petite territoire qu'on me donnait, chaque fois qu'on me rejette. Ça, il faut payer.
C'est-à-dire que vous avez craint pendant de nombreuses années d'être expulsé à tout moment, c'est ça?
Pendant 12 ans, j'avais peur.
12 ans? C'est-à-dire que vous avez mis 12 ans avant d'avoir des papiers et d'être en situation régulière?
Oui, 12 ans, je suis là sans avoir des papiers. Je suis régularisé en 2012. Je suis arrivé ici en 15 septembre 2000.
Ouais.
Alors, j'ai fait tout pour avoir ça. Malgré que j'avais fondé ma famille ici, mais je pouvais pas avoir de papiers. Mmh. Un jour, j'ai pris tous mes papiers que j'avais inquiété trop tard, je suis allé à la préfecture. Que ce soit que vous m'aidez à me régulariser, ouais, ou bien essayer de me rapatrier, même si là-bas c'est l'enfer, mais je préfère vivre là-bas que rester ici sans papiers, sans faire rien du tout.
Bon, en tout cas Mohamed, merci beaucoup de nous avoir appelé, merci de ce témoignage poignant. Autre réaction, autre témoignage, il nous vient de Venise, en Italie. Tal, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
Vous souhaitez nous interpeller sur les conditions de vie des migrants dans les camps de réfugiés à Bologne, puisque vous avez eu, de par vos activités, l'occasion d'aller à leur rencontre.
Oui, tout à fait. C'est des conditions de vie inhumaines et inexplicables si quelqu'un n'y accède pas. Et d'ailleurs, c'était un ancien camp militaire qui a été dessiné pour eux. Alors, sans aucune condition d'hygiène ni condition respectable de vie.
Mais ça veut dire quoi, aucune condition d'hygiène, concrètement, Tal?
C'est-à-dire, eux, ils s'arrangent, quoi. C'est le débrouillardisme total. C'est comme si vous... C'est comme dans un ghetto où chacun fait ce qu'il peut, fait ce qu'il veut. Il n'y a aucun respect, il n'y a aucune norme d'hygiène, aucune structure adaptée. C'est-à-dire, c'est l'autre façade de la vie des réfugiés politiques. Ils sont traités comme des moins que rien, comme des chiens, quoi, comme des animaux.
Enfin, j'imagine que ce camp de réfugiés à Bologne, il est géré par une ONG, par une institution, par la ville peut-être, non? Il y a bien un responsable de ce camp.
C'est généralement des coopératives qui les gèrent. Et la chose la plus étrange, c'est que chaque jour, les coopératives reçoivent 37,50 € sur chaque personne, chaque individu. C'est-à-dire s'il y a 100 individus, ils reçoivent 3 700 € pour gérer ces personnes-là et ils les gèrent comme ils veulent. Ils vont faire le tour des supermarchés, ramasser les nourritures ou les choses qui doivent être jetées pour leur donner ça à manger. Et alors vous imaginez les conditions dans lesquelles ces gens-là sont. Et également, quand il y a des commissions, comme disait l'autre, les commissions pour faire 1 an, 2 ans avant qu'ils t'appellent. Et pendant tout ce temps-là, tu dois être là-bas parce que ta situation n'est pas encore définie.
Ouais.
C'est juste un demandeur d'asile.
Ouais, et la mafia, parce que je lisais cette semaine un article dans la presse française, je sais plus dans quel journal, qui disait que la mafia en Italie se faisait beaucoup plus d'argent avec les migrants qu'avec la drogue aujourd'hui. Est-ce que c'est une information dont vous avez entendu parler, vous, en Italie? Est-ce que les médias en parlent?
Confirmé, c'est tout à fait vrai, parce que d'ailleurs même il y a un autre aspect qu'on appelle l'agromafia, c'est-à-dire toutes les filières agricoles que vous voyez, quand on va dans un supermarché, on achète un kilo de quel que soit produit, de la pomme ou des fraises, à 1 € ou 70 centimes, parce que ça provient des filières que gère la mafia, dans le sud, comme dans des villes comme San Vittorio ou Rosarno. Ça, c'est connu par tout le monde. Toutes les personnes qui vivent ici savent que ces gens-là, certains même sont payés 10 € par jour. Il y a de l'esclavage. La mafia, c'est eux qui vont en Libye, Tunisie, pour rapatrier les gens. Ils payent 2 000 à 3 000 € par personne. Alors, vous allez faire le compte. Si vous avez un bateau de 2 000 personnes, vous faites tranquillement le compte. Vous voyez exactement bien combien ils gagnent.
Ouais.
Et il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de drogue. Il n'y a rien. C'est tout illégal. Hein.
Bien sûr. Enfin, tout est légal. Non, ce n'est pas légal. Donc, mais...
Pour eux, tout est légal. Parce qu'il n'y a pas de risque.
Ouais. Merci Tal, en tout cas, de nous avoir interpellé sur cette question et sur la situation en Italie. Bon courage à vous. Vous écoutez RFI sur internet, RFI.fr. On a la réaction à l'instant de Madeleine, qui est burundaise. Bonjour Madeleine.
Bonjour.
Vous êtes à Butare, dans le sud du Rwanda. Vous avez fui votre pays ces dernières semaines à cause de la situation politique, des manifestations réprimées, et vous souhaitiez témoigner de votre exil.
Ah oui, à propos de mon exil, je peux dire que j'ai pas eu trop de problèmes parce que c'est un pays d'abord qui n'est pas loin du Burundi. Et la culture est un peu proche par rapport à celle du Burundi et on a été accueillis de façon compatissante, mais quand même des problèmes n'en manquent pas parce qu'on est dans un pays qui n'est pas habituel et financièrement on est fauché dans ce genre de problème.
Mais quand vous dites on a bien été accueillis, vous avez été accueillis par qui concrètement, Madeleine, en arrivant au Rwanda? Par les autorités rwandaises? Exactement. Par des ONG?
Pas nécessairement des ONG, mais des autorités rwandaises ont fait une enquête des réfugiés burundais qui se sont migrés vers vers le Rwanda. Et surtout, ce qui m'a impressionné, c'est que les familles rwandaises, ils ont accueilli à bras ouverts. Bien évidemment, c'est nous qui devons nous prendre en charge, mais quand même, de façon morale, ils ont été compatissants et ça nous réconforte aussi. Nous montre, ils sont aussi conscients des problèmes qui sont au Burundi. Et franchement, à part qu'on est financièrement fauché, mais quand même, on a été accueillis à bras ouverts, ce qui nous a réanimés moralement.
Vous êtes au Rwanda depuis combien de temps, Madeleine?
Bon, ça fait à peu près plus d'un mois qu'on est là. Mais les problèmes, quand même, comme je l'ai dit, n'en manquent pas.
Ouais. Mais vous vivez dans un camp, vous vivez dans une maison, vous vivez comment?
Bon, pas dans un camp, mais nous sommes dans une maison. Il y a des réfugiés burundais qui se prennent en charge, mais il y a des enquêtes qui se font dans les dans les ménages des Burundais. Mais pour le moment, on doit se prendre en charge.
D'accord. Merci Madeleine de ce témoignage de Boutaré. Bon courage à vous. La réaction de Mohamed. Bonjour Mohamed.
Oui, je suis à vous, oui.
Merci, bienvenue sur l'antenne des RFI. Si j'ai bien tout compris ce qu'on vient de me dire à l'instant au casque, vous nous appelez d'un camp de Maliens en Mauritanie. Allô? Bon, on va retrouver...
Oui,
oui, apparemment non, puisque je vous donne la parole et vous ne réagissez pas. On va essayer de régler ça hors antenne. Il y a sûrement un petit problème dans la ligne, dans le réseau téléphone. Ambroise, vous êtes en région parisienne. Bonjour Ambroise. Vous êtes choqué, vous, par les propos de Nicolas Sarkozy, qui a comparé l'afflux de réfugiés à une grosse fuite d'eau.
Oui, bah écoutez, je ne peux même pas dire que je suis choqué, je suis scandalisé. Scandalisé, parce que si on voit toute cette masse de personnes qui meurent actuellement en Méditerranée, je crois que M. Sarkozy et M. Cameron sont un peu les instigateurs, sinon les promoteurs de ce genre de situation. Parce que s'ils n'avaient pas tapé sur Kadhafi, qui était une sorte de paravent, je crois que nous ne serions pas en train de vivre ça aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier élément, c'est un constat. Le second constat, il y a aujourd'hui des guerres au Soudan, en Érythrée, je ne saurais citer tous ces pays-là, mais ces pays-là ne sont pas des fabricants d'armes. Les armes sont fabriquées au nord et sont utilisées au sud. Et ça, vraiment, ça c'est un constat. C'est de la responsabilité également du nord. Alors, on est là sur deux situations de responsabilité. Alors, moi, ma réflexion, elle n'est peut-être pas originale, mais je pense qu'aujourd'hui, le Nord doit prendre ses responsabilités. D'abord, à limiter la vente d'armes, ou à les contrôler vraiment, que les armes ne tombent plus entre les mains de n'importe qui, que le soutien aux dictateurs qui sont en place actuellement en Afrique s'arrête. Troisièmement, qu'on aide les gens sur place.
Ouais. Donc pour dire directement les choses, il faut que l'Europe tout simplement s'attaque aux problèmes de fond et non pas forcément à mettre en place des dispositifs pour essayer de barrer la route aux migrants ou pour essayer de traquer les passeurs, les filières de migrants clandestins. Vous dites, vous, la priorité, si on veut vraiment régler ce problème, c'est de s'attaquer à la base du problème, notamment les guerres, effectivement, la vente d'armes, le soutien à certains chefs d'État, etc. Merci Ambroise de ce coup de gueule. On va essayer de retrouver quand même Mohamed. Est-ce que vous nous entendez? Mohamed.
Bon. Je vous reçois très bien.
Eh ben, on vous écoute, on vous donne la parole, allez-y. Vous nous appelez d'un camp de Maliens en Mauritanie. Où êtes-vous exactement et racontez-nous votre quotidien.
Je suis à Mbarra, dans un camp de réfugiés maliens en République islamique de Mauritanie.
Oui.
Et voilà, donc... comme tous les réfugiés, bon, je suis là et puis nous sommes là, nous sommes encadrés d'un côté par la République islamique de Mauritanie qui nous a offert son hospitalité et de l'autre côté la communauté internationale dirigée par le HCR ici, donc qui conjuguent leurs efforts pour assurer le quotidien, la vie de ces réfugiés ici.
Ouais. Et votre vie quotidienne, s'il fallait la résumer en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous la raconter?
Bon, disons notre vie quotidienne dans les camps. Bon, voilà, donc les réfugiés sont là. Nous, au quotidien, les réfugiés, ceux qui partent... pour glaner de la valeur ajoutée, peuvent y aller au niveau des foires qui sont dans les proximités du camp. Il y en a qui partent pour ramasser du bois mort pour faire la cuisine. Il y en a qui partent pour conduire leurs quelques troupeaux de chèvres, leurs quelques chèvres laitières qu'ils utilisent pour avoir du lait au niveau du camp. Maintenant, il y a des réfugiés qui travaillent au niveau des ONG
aussi donc au niveau des services humanitaires qui vont au boulot pour aider les réfugiés dans le cadre de l'assistance. Il y en a aussi bon qui partent puiser de l'eau, il y en a qui partent
donc
se soigner.
Chacun un peu ses activités au quotidien. Mohamed, merci de nous avoir appelé donc de ce camp de Malien en Mauritanie. Merci de ce témoignage. Prosper, vous êtes à Pointe-Noire. Bonjour.
Bonjour Anne.
Alors vous êtes très pessimiste, vous dites vu le nombre de conflits impressionnants à travers le monde, vous ne voyez pas comment le nombre de réfugiés pourrait baisser.
Merci Anne, en tout cas moi je ne vois pas comment le nombre de réfugiés pourrait baisser si on n'attaque pas le problème à la racine. Et les causes de ces réfugiés, ce qui provoque que les gens quittent leur pays, nous connaissons les causes. Il y a d'abord la mauvaise gestion des pays, dans la mauvaise gouvernance, ensuite il y a les conflits. Le manque de démocratie, le manque du respect de la démocratie. Je crois que si on s'arrange pour que ces choses principales sont réglées, eh ben on n'aura pas assez de fuites, assez de gens qui vont partir de leur pays. C'est pourquoi je pense, Juan, que la communauté internationale devrait prendre tout son temps, peser de tout son poids pour ramener à l'ordre les dirigeants africains, surtout là où on crée des conflits du genre africain. Certains sont là, sont arrivés parfois à la fin de leur mandat, mais préfèrent susciter des conflits.
Oui. Prosper, vous qui êtes sur le continent africain, qui suivez cette actualité des migrants, comme beaucoup de nos auditeurs, comment vous réagissez lorsque vous voyez que les pays européens sont clairement divisés sur le nombre de migrants qu'il faut accueillir, quand on voit que ça pinaille, notamment s'agissant des quotas des migrants, que certains voudraient en accueillir beaucoup moins. Vous comprenez, vous, ce débat en France et cette polémique ou pas ?
Non, cette polémique ne peut pas se comprendre parce que ce sont les Occidentaux qui créent ces problèmes en soutenant... Parce que ces émigrés, où est-ce que vous voulez qu'ils partent, Juan ? Ils sont obligés de fuir. Et quand on veut fuir, on ne va pas aller là où on va se sentir dans un chaos. On cherche à aller là où apparemment il y a mieux. Et ils vont vers la France, vers l'Europe.
Oui, et donc, pas forcément que vers, pas forcément vers l'Europe. On avait tout à l'heure une auditrice, je n'ai plus son prénom et je m'en excuse, Madeleine, voilà, qui est burundaise. Vu le contexte dans son pays, elle est partie au Rwanda. On a Ismaël à l'instant qui est au téléphone. Bonjour Ismaël.
Bonjour Juan.
Vous êtes centrafricain et vous êtes réfugié au Congo-Brazzaville.
Bien sûr que oui, Juan, je suis à Congo-Brazzaville. Ça fait 2 ans que je suis là, tant que réfugié centrafricain, par rapport au conflit que nous avons connu de notre pays. J'ai pris la fuite et me voilà ici à Brazzaville, Juan.
Alors, vous vivez comment ? Dans quelles conditions vivez-vous ? Est-ce que vous êtes seul ? Vous êtes avec votre famille ?
Oui, Juan, dès le départ, j'étais seul, je suis arrivé seul. Et ensuite, j'étais hébergé dès le premier jour par un compatriote centrafricain qui était résident bien avant ici. Et ensuite, j'ai commencé les démarches administratives au niveau de Sénat, au niveau de l'ACR pour avoir mon statut de réfugié. Par la suite, mes 2 enfants m'ont rejoint. Il reste ma femme qui est encore au pays.
D'accord, donc vous êtes avec vos 2 enfants en ce moment-là. En ce moment, est-ce que vous êtes aidé, soutenu par le HCR en tant que réfugié ?
Oui, bien sûr que oui. Dès le départ, là, nous avons reçu au moins 3 mois d'une caution locative, que j'ai pris une chambre. Avec les enfants, je suis en train de me loger là-dedans. Mais concrètement, M. Roy, jusqu'à présent, l'aide n'est pas tellement suffisante. Elle n'est pas suffisante par rapport à ce que nous vivons ici à Brazzaville, Juan.
Ouais. Et on parle de la Centrafrique en 2 mots. On connaît maintenant le calendrier électoral. On sait qu'il va y avoir des élections en octobre. Ça ne vous incite pas à rentrer chez vous, à retourner en Centrafrique ?
Mieux vaut que je sois chez moi, je souffre chez moi, Juan. C'est notre souhait, Juan. Si aujourd'hui on se constitue comme un réfugié à l'extérieur, dans un pays limitrophe, c'est parce qu'on voulait seulement sauver notre peau, Juan. Nous ne voulons pas contribuer dans le développement de notre pays. Nous voulons absolument rentrer. Ouais. Le retour est indispensable pour nous, Juan.
Ouais. Merci à vous de ce témoignage. J'avais encore d'autres auditeurs qui patientaient au standard, qui souhaitaient s'exprimer. On aura peut-être l'occasion de vous redonner la parole dans les prochains jours. Cette journée spéciale se poursuit évidemment sur l'antenne d'RFI. Dans un instant, vous allez retrouver Claire Edon qui